vous écoutez RFI, il est 16h à Paris, 2h de moins en temps universel.
Jean-Baptiste Marot.
Bonjour à toutes et à tous. C'est le jour J à Marseille. La flamme olympique s'apprête à toucher terre en France. Après 12 jours de mer à bord du Bel Aime, elle débarquera tout à l'heure sur le Vieux-Port dans une ambiance de fête. Nous irons sur place dans la cité phocéenne dès le début de ce journal pour aller voir quelle est l'ambiance. À la une également le Proche-Orient où les négociations en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas ont repris au Caire sur fond d'intensification des opérations de l'État hébreu à Rafah. Alors que depuis hier, l'armée israélienne y mène une offensive qu'elle qualifie de limitée, Washington annonce avoir suspendu la livraison d'une cargaison d'armes à l'État hébreu. Enfin, l'Ukraine a une fois encore été la cible d'une attaque massive de la Russie la nuit dernière. Plus de 70 drones et missiles lancés à nouveau contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Marseille, en fait, donc, ce mercredi pour accueillir la flamme olympique sur le sol français après 12 jours de mer pour la ramener de Grèce où elle a été allumée. Elle débarquera cette flamme en tout début de soirée sur le Vieux-Port où des dizaines de milliers de personnes l'attendent avec impatience. Une flamme qui se trouve pour l'instant et pour quelques heures encore à bord du Bel Aime, un somptueux trois-mâts qui parade depuis ce matin dans la rade de Marseille, accompagné par plus d'un millier de petites embarcations. Sous un soleil radieux, le spectacle est grandiose et ce pour le plus grand bonheur des Marseillais. Exemple tout de suite avec Alexandre, 30 ans, croisé dans la matinée alors qu'il était en route pour la côte. Témoignage.
On a prévu d'aller se poser à l'abbaye de Sainte-Victoire pour regarder le Bel Aime arriver. Petite canette, petite assise tranquille, un peu loin de la foule du Vieux-Port. Parce que j'ai un peu regardé le montage de la scène et tout. C'est très petit, hein. Le Vieux-Port, il reste pas beaucoup de place. C'est un bordel depuis deux jours. J'habite vers le Vieux-Port, donc on voit tout le bordel. Et donc on va se mettre un peu en hauteur, regardez. Mais ça fait plaisir qu'il se passe quelque chose. Je pense que je suis plutôt heureux qu'il se passe quelque chose à Marseille, qu'il y ait une émulsion.
À propos recueilli par la correspondante de RFI à Marseille, Siam Spencer. Marseille, on y reste et on y retrouve à présent l'un de nos envoyés spéciaux qui a la chance de vivre cette journée exceptionnelle dans la cité phocéenne. Bonjour Nicolas Feldman.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Nicolas, une journée exceptionnelle au cours de laquelle on sent monter l'excitation sur le Vieux-Port au fur et à mesure que l'heure à laquelle le Bel Aime doit accoster se rapproche.
Oui, alors pour accéder ici, il faut déjà montrer patte blanche. De longues files d'attente se forment aux abords des contrôles. Mais une fois la sécurité passée, eh bien déjà, quelques milliers de Marseillais déambulent autour des bateaux, se rassemblent près de la Grande Seine. C'est là que d'ici une heure, des humoristes marseillais et des danseurs vont commencer à chauffer la foule. Car pour les vraies festivités, eh bien il faudra encore attendre un peu. La cérémonie officielle d'accueil de la flamme ne démarre que dans 3 heures. C'est à ce moment-là que le Bel Aime va faire son entrée dans le Vieux-Port, accompagné d'abord par les avions de la patrouille de France, puis par une Marseillaise interprétée a cappella. Le protocole est très précis. Pour arriver jusqu'à 19h40, le nageur Florent Manaudou sera le premier relayeur à fouler le sol français avec cette flamme olympique. Il doit s'avancer vers la foule sur une piste d'athlétisme flottante. Mais est-ce vraiment lui qui aura l'honneur d'allumer le chaudron? Là, les organisateurs entretiennent le flou, puisqu'il se murmure ici que Florent Manaudou pourrait laisser cette tâche à une autre véritable icône locale, Zinedine Zidane. Réponse donc d'ici un peu plus de 3 heures.
Et après Marseille, la flamme olympique traversera plus de 450 villes françaises. Son périple s'achèvera le 26 juillet prochain à Paris lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Merci Nicolas Feldman. Au Proche-Orient, alors que les négociations pour tenter de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza ont repris en fin de matinée au Caire en présence de toutes les parties au conflit, Israël poursuit son offensive sur la ville de Rafah dans l'extrême sud de l'enclave palestinienne. Qualifiée de ciblée et limitée par l'État hébreu, elle n'en provoque pas moins l'inquiétude de la communauté internationale, au sein de laquelle les réactions se multiplient. Parmi les plus notables, il y a celle des États-Unis qui ont annoncé dans la nuit avoir suspendu la livraison d'une cargaison d'armes destinée à leur allié israélien. Une première depuis l'offensive du Hamas le 7 octobre, une première alors qu'en Égypte également la tension est montée d'un cran depuis hier, en cause l'arrivée de blindés israéliens dans une zone qu'on appelle le corridor de Philadelphie, une zone qui longe la frontière égyptienne en territoire gazaoui. Précision au Caire, Alexandre Bouchanti.
L'accord sur le corridor de Philadelphie a été conclu en 2005 suite au retrait israélien unilatéral de la bande de Gaza. En vertu du traité de paix, la zone démilitarisée qui longeait la frontière du côté occupé par Israël a fait l'objet d'un accord. Le côté égyptien du corridor était confié à 750 gardes frontières dépêchés par le Caire. Le côté palestinien était contrôlé par l'autorité palestinienne. Depuis 2007 et la prise du pouvoir du Hamas à Gaza, l'Égypte patrouillait seule le corridor. En décembre 2023, Israël a annoncé vouloir prendre le contrôle du côté palestinien du corridor pour empêcher la contrebande d'armes vers le Hamas à partir de l'Égypte. Le Caire avait formellement refusé. Selon des sources proches des services de renseignement, l'Égypte, suite à l'arrivée de blindés dans le corridor, a averti Israël de la gravité de l'escalade à la frontière et a indiqué que tous les scénarios étaient sur la table, sans donner plus de précision. Alexandre Ouchanti, Le Caire, RFI.
Et face aux pressions internationales grandissantes, sachez par ailleurs qu'Israël a annoncé ce matin la réouverture du point de passage de Kerem Shalom, un couloir qui relie le territoire israélien au sud de la bande de Gaza. Il avait été fermé il y a 4 jours après des tirs de roquettes sur la zone. Objectif, permettre d'accroître le flux d'aide humanitaire destinée à l'enclave palestinienne où l'OMS s'inquiète notamment cet après-midi d'un possible manque de carburant à brève échéance dans les hôpitaux du sud. Selon le patron de l'organisation, il ne reste plus que 3 jours de réserve sur place. L'Ukraine, elle, a de nouveau été la cible d'une attaque massive de drones et de missiles russes la nuit dernière sur une large partie de son territoire. Kiev affirme en avoir intercepté une partie, 59 des 76 projectiles tirés par Moscou. Une partie, mais pas suffisamment pour éviter d'importants dégâts, notamment sur les infrastructures énergétiques du pays, une fois encore prise pour cible. L'armée russe, qui en parallèle de cette attaque, poursuit également son grignotage de l'est du pays. Ce mercredi, le ministère russe de la Défense annonce ainsi s'être emparé de 2 nouveaux villages ukrainiens sur le front de l'Est, l'un dans la région de Donetsk, l'autre dans la région de Kharkiv. C'est dans ce contexte que les ambassadeurs des 27 États membres de l'UE sont réunis à Bruxelles en ce moment pour discuter d'un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. S'il est adopté, il s'agira alors du 14e depuis l'invasion du territoire ukrainien il y a un peu plus de 2 ans. Et cette fois, eh bien, il pourrait y avoir une nouveauté. Arthur Ponchelet, l'Union européenne pourrait en effet s'en prendre au GNL russe, le gaz naturel liquéfié.
Oui. Et c'est l'un des angles morts de la réponse européenne à la guerre en Ukraine. Contrairement à d'autres matières premières, le GNL, le gaz naturel liquéfié, peut toujours être importé de Russie par les pays de l'Union européenne, car les 27 dépendent fortement de Moscou pour leur gaz. Avant la guerre, 40% étaient importés de Russie, une part qui a diminué mais qui reste importante, autour de 15%. Ça, c'est le total du gaz importé par gazoduc et du GNL. Pour s'en passer totalement, il faut diversifier son approvisionnement. Et Bruxelles le reconnaît, c'est un processus long et coûteux qui nécessite des investissements dans les infrastructures. C'est pourquoi il n'est pas encore question d'interdire totalement les importations. Ce qui doit être discuté à Bruxelles ce mercredi, c'est l'interdiction de la réexportation, car l'UE est un hub pour le GNL russe qui est chargé dans des navires et envoyé ensuite vers d'autres pays, notamment asiatiques. Sans ce hub européen, Moscou devrait revoir ses plans et passer par une autre route, par la mer Arctique, bien plus coûteuse et qui pose beaucoup de problèmes logistiques.
Arthur Ponchelet en direct sur RFI. Et puis toujours à propos de la guerre en Ukraine, une information encore à vous signaler face aux problèmes de recrutement auxquels l'armée ukrainienne est actuellement confrontée. Le Parlement de Kiev vient d'adopter un texte qui permet de mobiliser les prisonniers. Allez, un mot d'économie pour finir avec Alstom qui parachève son plan de désendettement. Pour cela, le géant français du rail compte notamment sur une hausse de son capital d'environ 1 milliard d'euros. Une hausse plus importante que prévue qui doit être lancée d'ici à la fin du mois de septembre. 2 grands actionnaires ont déjà fait part de leur intention d'y souscrire. Il s'agit, Myriam Berber, de la Caisse des dépôts du Québec et de BPI France.
Outre l'augmentation de capital, le géant français du rail va également lancer un emprunt obligataire pour environ 750 millions d'euros. À cela s'ajoute la cession d'actifs déjà engagée. Alstom a en effet vendu son activité de signalisation en Amérique du Nord. Ce plan de redressement a un coût social. L'industriel a annoncé la suppression de 1500 postes administratifs dans le monde, dont environ 300 en France. L'objectif est de réduire sa dette de 2 milliards d'euros d'ici 2025. Malgré un carnet de commandes bien rempli, le constructeur ferroviaire a en effet de gros problèmes de trésorerie liés à des stocks en surnombre et à des contrats retardés. Le rachat en 2021 des activités de transport du Canadien Bombardier pèse également sur les finances du groupe. Avec cette restructuration, Alstom espère obtenir les faveurs des agences de notation qui évaluent la solvabilité des entreprises.
Myriam Berber du service économie de RFI, c'est ainsi que s'achève cette édition 16h10 dans quelques secondes dans nos studios à Paris.